Bonjour et bienvenue à J'ai des questions. Ceci est la deuxième partie de notre conversation avec pasteur, auteur et conférencier Jean-Sébastien Morin au sujet de l'enfer. La première partie a été publiée séparément et on vous invite à l'écouter avant d'écouter cet épisode. Ici, on traite l'intersection entre la justice, la paix, la réalité de l'enfer et l'Évangile. Reprenons la conversation là où on l'a laissée.
Est-ce qu'on peut faire peur ou pas avec l'enfer? Puis des fois, on ne veut pas parler de l'enfer parce qu'on ne veut pas que les gens se convertissent par peur. Mm. Mais Jean-Baptiste n'a pas eu ce message-là. Tu sais, race de vipères, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Dieu arrive avec sa pelle pour abattre les arbres et tout ça. Puis, ça va être utilisé. Nous, on est sensible à ça parce qu'on a vu, tu sais, le fire and brimstone. Puis mais il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils ont peur du jugement de Dieu. Puis on voit ça dans même quand de la façon Jésus va prêcher parfois. Il ne prêche pas toujours de cette manière-là. Mais quand même, il y a un âge, je pense, pour lequel tu sais, tu ne veux pas marquer l'imaginaire des jeunes enfants. Fait que comment t'expliques ça? Puis un des termes qui est utilisé dans l'Écriture, c'est une prison. Fait que j'avais expliqué à ma plus vieille que Hérode est en prison. Essentiellement, c'est une prison que Dieu pour l'éternité, puis tout ça. Puis ça reste comme ça. Puis une couple de semaines après, je suis dans une conférence à l'extérieur, puis j'appelle la maison, puis mon épouse me dit « Ouais, il va peut-être falloir que tu expliques un peu plus de choses, la note plus vieille, là, parce que... » est en train de faire une carte pour le roi Hérode, parce qu'il dit « Mais là, il va s'ennuyer en prison. » Mais, tu sais, bon, le quart de compassion de la plus vieille, là, puis à quelque part, tu sais, si nous, on a une compassion... Mais je pense que Dieu aussi a une compassion. Ça, je pense qu'une des plus importantes clés pour, à quelque part, se réconcilier avec l'enfer, peu importe qu'est-ce qu'il est, c'est de dire, ben Dieu a infiniment plus de compassion que moi, puis Dieu a infiniment plus de justice que moi. Puis, tu sais, on vit dans un contexte, particulièrement au Canada, où, tu sais, on a éliminé la peine de mort depuis tellement longtemps, puis l'argumentaire, puis je pense qu'on le partage pas mal tous, ou presque, au Canada, dit, ben, tu sais, il y a un danger de tuer quelqu'un d'innocent. Mm-hmm. Puis c'est un de nos arguments, disait, ben, pourquoi est-ce qu'on... Et particulièrement d'une conception non chrétienne, si tu tues quelqu'un, tu l'amènes à cesser d'exister complètement. Tu sais, fait que l'acte d'anéantir quelqu'un d'autre, hey, c'est lourd pour une conscience, surtout quand t'es pas sûr si tu fais la bonne chose ou pas, ou que quelqu'un mérite. Est-ce que quelqu'un d'autre mérite l'anéantissement? Mais c'est pas moi le juge, bourreau puis l'exécutionneur. Mais par contre, il y en a un qui a une pleine compassion, qui a une pleine connaissance de tout, puis qui est capable de démettre ces jugements-là. Fait que ma réconciliation avec ça, parce que j'ai lutté, puis des fois je continue de lutter avec la notion de l'enfer, mais je reviens quand même à dire... Peu importe si Dieu est juste, et à quelque part, ben, il y a aussi quelque chose en nous qui nous dit que le méchant doit être puni. Tu sais, on le voit les méchants, on le voit dans 4 Maccabées, mais j'aime donner l'image de... j'aime beaucoup les films, puis un classique, là, Retour vers le futur. Y a-tu un méchant plus méchant que Biff Tannen dans une série de films, un gars que tu veux fesser dedans? Et dans le 2, je pense pas que je vole un punch, ça fait 40 ans que le film est sorti, là, mais dans le 2, à un moment donné, Marty il revient dans le passé, Biff est devenu comme Donald Trump. Littéralement, c'était le personnage, était basé sur Trump un peu, c'est drôle. Là, mais, et à un moment donné, il arrive en haut de sa tour, puis Biff est là pour tuer Marty, puis Marty est acculé, puis il y a deux choix, soit qu'il se fait tirer, ou soit qu'il saute dans le vide en arrière, puis qu'il s'écrase. Et là, t'as Biff qui dit sa phrase, « C'est quand même, on est deux McFly avec le même flingue. » Et là, il arrive pour tirer, puis Marty se pitch en arrière, puis là, Biff est comme Puis il s'approche, puis là, t'as le moment glorieux, parce que Doc était là avec la DeLorean volante, puis Marty atterrit dessus, puis là, il voit comme Marty, puis là, t'as comme la porte qui ouvre, hein, on veut tout un char comme ça, là, pif, donne un coup à Biff, Biff mange une volée, puis là, t'as vraiment un sentiment profond de joie dans ton cœur, comme « Yes! » Et tu l'as dans les films où le méchant reçoit ce qu'il mérite. Et tu as un malaise profond avec les films où le méchant gagne. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que le méchant, ce soit nous, quelqu'un qu'on connaisse, parce qu'on se dit, mais je ne suis pas si méchant que ça. Mais c'est méchant qu'on voit partout dans notre littérature, dans nos films, dans notre théâtre, qui méritent, eux, la volée puis de manger. Tu sais, on n'aurait pas de problème. Tu sais, on a la série 24, là, 24 heures chrono avec Jack Bauer qui nous habitue à la torture. Tu sais, on se dit, mais écoute, si t'es un terroriste puis qu'il y a une information pour sauver des millions de personnes, ben, Jack, mais écoute, laisse ça à Jack, il va s'en occuper. Il va faire la sale besogne que nous, on veut pas faire. Mais, tell me what I want to know! Mais quelque part, on a quand même cette compréhension qu'il y a réellement un mal, puis des gens qui veulent vraiment le mal. Et y a quelque chose qu'on veut. Je pense que c'est Dieu qui a mis en nous ce sentiment de justice-là, puis on ne sait pas comment réconcilier le fait qu'on doit faire une justice avec le fait qu'on aimerait quand même bien que tout le monde... on aimerait ça que tout le monde puisse être sauvé, puis que tout le monde, que personne aille... Tout comme on aimerait ça qu'il n'y ait personne dans nos prisons. Mais la réalité, c'est que... Tu sais, on vit dans un monde, j'ai trois filles, un garçon, tu sais, puis t'entends les questions d'enlèvement, j'écoute un film dernièrement sur les enlèvements d'enfants et tout ça, puis là, tu dis, waouh, on vit dans un monde, là. Tu sais, il y a une des jobs dans la vie des policiers, là, c'est de checker, là, toute la cochonnerie que la pornographie pédophile est là. Tu sais, waouh, parce qu'il doit le faire pour que les gens puissent être jugés par rapport à ça. Puis tu dis, on vit vraiment dans un monde brisé. Puis c'est justement ça, ben Dieu, une des façons de voir l'enfer, c'est de dire comment est-ce que je sors le mal et l'enfer de ce monde-là. Puis c'est ça le jugement. C'est pas juste que Dieu, un Dieu méchant veut taper sur les gens gentils. C'est que les gens, on a scrappé le monde parfait de Dieu. Puis qu'on veut faire à notre tête, puis ça nous amène à un monde plein d'injustices. Mais à un moment donné, le jugement est nécessaire. Parce que, tu sais, dans la phrase, c'est « Ah, mais il va sauver tout le monde. » Ben, l'image est classique, mais tu sais, si t'arrives au ciel, puis dans un monde supposément de paix et de justice, puis Saint-Pierre, tu sais, comme dans la joke, là, dit « Ben, Saint-Pierre t'accueille au ciel, puis il te montre ta maison, puis juste avant de partir, il te donne les clés. » Puis il dit « Mais en tout cas, avant de quitter, oublie pas de barrer la porte. » Okay. Pourquoi? On n'est pas au paradis, on n'est pas au ciel. Je dis oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Mais le moment où tu laisses rentrer tout le monde, tu as exactement le même problème qu'on a ici. Fait que tu as besoin d'un bonsoir à porte, pas une bonne sœur, mais un bonsoir. Tu as besoin d'un bonsoir à porte qui y a un jugement dernier. Le jugement dernier est nécessaire pour avoir véritablement un monde de paix et de justice. Tu ne peux pas avoir de monde de paix et de justice sans un jugement dernier. Et comme C.S. Lewis le dit, puis je trouve que c'est tellement bien dit, il dit, il y a deux types de personnes. Il dit, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu va dire à la fin que ta volonté soit faite. Parce que si cette offre est réellement donnée à tous, puis qu'à quelque part, j'ai besoin non pas d'une lobotomie pour que je sois capable de faire le bien, mais j'ai besoin d'un changement de cœur. Mais demander à l'Évangile, regarde, je veux croire dans ce que Jésus vient, mais il nous propose, vous avez un cœur de roche, un cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair qui va battre au rythme du cœur de Dieu. Ben oui, accepter l'Évangile, c'est d'accepter aussi d'avoir une opération à cœur ouvert. Puis dire, ben, je vais vouloir et je vais accepter que Dieu va changer, puis que je vais... Tu sais, on accepte d'une certaine manière de perdre une partie de liberté. Parce que quand je dis à Dieu en bout de ligne, là, transforme mon cœur pour que je sois plus capable même de vouloir le mal. Parce que je déteste tellement ce que le mal fait et ce que le mal fait dans notre monde que je te choisis, je demande librement, change mon cœur. Ben, à quelque part, ben, il y a un choix qui est fait, un réel choix de dire je veux arrêter de faire le mal. Fait que souvent, on définit la liberté comme la capacité de faire le mal. Mais je pense que justement, c'est une des versions du péché, c'est que la liberté, la mauvaise liberté, c'est le péché, c'est qu'on veut faire le mal. La liberté, c'est d'être capable de faire le bien puis de le faire en tout temps. C'est ça la véritable liberté, du moins dans une perspective biblique. Fait, il faut qu'il y ait un bonsoir. Il faut qu'il y ait un jugement dernier. Qu'est-ce qui arrive de l'autre côté du jugement dernier? C'est là que je m'en remets personnellement à la justice de Dieu. De dire, Dieu fait une promesse, chacun recevra selon ses œuvres. C'est un verset qui revient souvent dans le Nouveau Testament, qui n'est pas lié à, on n'est pas sauvé par nos œuvres méritoires, mais on a quand même, autant les chrétiens que les non-chrétiens ont à répondre devant Dieu des œuvres que nous avons faites. De la même manière que des récompenses proportionnelles, il y a probablement des châtiments aussi proportionnels. Puis Hitler n'aura probablement pas le même châtiment que d'autres. Puis c'est quoi exactement ce châtiment-là? Moi, je préfère garder du sens du mystère. Quand je regarde l'ensemble des images, destruction, grincement de dents, lieu de ténèbres, un feu, tout ne peut pas être littéralement vrai en même temps.
Mm.
Mais ça me donne assez d'indices. Je veux pas être là. Dieu nous a donné une façon de ne pas être là. Mm. Puis même que l'image que le Christ est descendu au séjour des morts, tu sais, Christ est descendu là à ta place et a brisé la mort. Pour moi, c'est une image là glorieuse. Même que dans les 1000 premières années de l'histoire de l'Église, quand on parlait de la résurrection sur les images, sur les icônes, sur les diverses choses, c'est quand tu vois Christ qui ressuscite, c'est que tu vois Christ qui sort du séjour des morts avec à sa traîne, dans ses mains, Adam et Ève. Beam me up, Scotty. On sort, il a brisé. Ésaïe souvent pris, donc il a brisé l'enfer. Donc, on ne croit pas qu'il vient sauver tout le monde. On ne revient pas à l'universalisme, mais il a proclamé sa victoire. Mais c'est ce que l'on croit à partir du Nouveau Testament, que maintenant que les gens dans la Nouvelle Alliance, une fois qu'ils décèdent, mais ils vont directement avec le Seigneur. Fait qu'ils ne s'entassent plus dans le séjour des morts, mais que le reste des morts continue d'aller dans le séjour des morts en attendant le jour du jugement qui viendra un peu. Nous attendons du ciel Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Ça fait partie du credo du Concile de Nicée, de la foi chrétienne orthodoxe. Désolé, je me suis emporté là, dans un long monologue, mais...
Avec beaucoup d'informations à digérer, mais j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Je pense, entre autres, là, ce que je retiens, c'est que notre compréhension de l'enfer, ça a vraiment un impact sur d'autres éléments de notre foi. Puis que tout est un peu connecté. T'sais. On a besoin d'y penser. J'apprécie que tu y as pensé. puis ça... Je suis un peu moins mal à l'aise avec le sujet, justement, parce que je me dis, bon, premièrement, je vois que je ne suis pas la seule qui doit lutter avec ces questions-là. Je ne suis pas la seule qui se pose des questions par rapport à l'enfer. Mais aussi que d'y penser, ça peut m'apporter même quelque chose de positif par rapport à ce que je crois sur Dieu. C'est pas juste de dire, là, maintenant, je pense à Dieu, puis je pense à quelqu'un qui torture. T'sais? Puis souvent, je pense que c'est pour ça que j'hésite d'y penser, puis je me dis « Ah, je vais moins respecter Dieu. » T'sais, on parle on a eu beaucoup d'images là, par rapport à des films puis tout ça. Moi, j'ai du mal à regarder des films puis des émissions de télé où ce que le bon gars ou la bonne fille, là, ils font du mal puis coupent les coins. Moi, j'aime les règles, hein. Puis là, tu sais, les émissions, là, où ce que, admettons, je pense qu'il y en a un, c'était Dexter, je pense, où c'était comme un gars qui attrapait les méchants, puis après ça, il les torturait, tu sais. Puis tout le long, tu dis, ah, lui, tu sais, c'est le héros, puis là, seulement, il torturait. Puis j'avais du mal avec ça, parce que je me disais, il a pas le droit de faire ça. Puis j'étais plus capable de regarder je suis pas capable. Fait que là, je pense qu'il y a un côté de moi qui, quand je pense à Dieu puis je pense à l'enfer, c'est un peu ce même malaise-là. Puis ce que tu dis par rapport au fait que peut-être je suis en train de projeter aussi mes limites de justice, mes limites, ma peur de dire, mais peut-être que cette personne-là est pas si pire que ça. Puis là, je sais pas, tu sais. Mais Dieu, il sait tout. Il est complètement juste. Il aime complètement aussi. Fait que je dois garder ça là, quand je pense au sujet de l'enfer.
Non, j'aime vraiment ce que t'apportes, Christina. Puis, ouais, je pense que c'est important pour chacun de... Je pense que ça revient à un acte de foi, ce que je retiens vraiment. T'sais, on parle de la foi de façon générale, d'habitude, la foi que Dieu va te guérir ou la foi que Dieu va te donner un emploi ou je sais pas trop quoi, mais le fait de penser à l'enfer puis à nos malaises en tant que personne contemporaine, c'est de revenir au fait que hey, je dois faire confiance à Dieu qu'il est vraiment celui qui dit être. Il est bon, il est parfaitement bon. Est-ce que je le crois vraiment? C'est comme un test. C'est comme une doctrine test, un petit peu comme est-ce que ça vient vraiment tester ce que tu crois sur Dieu, ce que tu crois sur l'Évangile, puis au fond de toi-même, au fond de moi-même, est-ce que je crois vraiment que Dieu est juste, il est bon, puis il fera pas d'erreur? Comme ça revient pour moi, dans mes conversations avec d'autres jeunes adultes, ça revient vraiment à ça. Donc je trouve que c'est utile pour nous d'en parler et même de un peu de j'oublie le mot, là, mais de le cadrer comme ça, à quelque part.
Oui, puis je pense qu'on a aussi, en tant qu'évangélique, on a chacun nos déformations. avec l'histoire. C'est-à-dire, on a eu nos expériences, on a eu... tu sais, je parlais tout à l'heure, par exemple, du jour du Seigneur, on n'est pas trop sûr. Tu sais, aujourd'hui, on ne se pose même pas la question en tant qu'évangélique. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on ne se rend pas compte qu'on est peut-être en porte-à-faux avec le reste de l'histoire. Fait que je pense qu'il y a certainement un enjeu où on a une vision de l'évangile qui est peut-être pas l'évangile tant que ça, parfois, parce qu'on ça nous amène à... On a notre... pas pince à cils, là, ouais. notre lime pour égaliser nos doigts, nos ongles. Puis on fait ça, on passe ça, la lime à ongles, sur tous les passages qui nous dérangent. Puis on se rend pas compte que je pense que notre lime à ongles est bien usée, parfois, en tant qu'évangélique, parce que la Bible, not so much, des fois. Mm. Parce que ce que je pense savoir sur la Bible... Ah, oh, OK, ça, c'est correct. Mais je disais cette semaine, c'est une citation d'Augustin qui disait, si tout ce que t'aimes dans la Bible, c'est les passages que toi t'aimes, ben c'est pas la Bible que t'aimes, c'est toi-même.
Oh!
Tu sais, fait que c'est intéressant. Fait que je peux lire la Bible en me retrouvant moi-même seulement, puis en faisant pas compte des passages qui me dérangent.
Wow!
Ouais, ça mérite un kit, selon les Haïtiens, là. Wow!
Le mic drop, non?
Ouais, c'est ça.
Yeah.
Ben écoute, je pense que c'est une belle façon de finir avec un mic drop. Puis aussi, juste un encouragement pour tout le monde de continuer de réfléchir sur le sujet. Puis justement, c'est pas parce qu'un sujet nous rend mal à l'aise ou une question est plus difficile à aborder qu'elle vaut pas la peine d'être explorée. Merci à vous deux de m'avoir accompagnée dans cet exercice. Puis,
ça m'a fait plaisir.
Puis c'est ça, j'ai hâte de continuer d'y réfléchir. Merci.
Merci.
Hey, bye-bye.
J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.question. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.